Ah, Audrey qui m'a avoué qu'elle aimait ça s'assassiner de fois de temps en temps.
Hey, ça m'a comme fait du bien, matin, on dirait. Je me sens libérée. Là,
ouais. C'est chum, mais il s'assassine encore avec toi?
Non, je pense que c'est ça, quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, il n'y en a plus rien à foutre, il te donne raison parce qu'il n'y a pas le goût de s'assassiner. Fait que moi, je suis tranquille à la maison. Là.
Fait que c'est ça, tu viens travailler avec ton marceau.
Oui, mais je pense pour ça j'aime ça travailler avec toi.
Ouais, oui, oui. J'ai envoyé, il y a un auditeur qui nous a écrit, qui est un peu fâché là, par mes propos. Moi, c'est le free speech. Tu sais, on peut dire les choses, puis ce sera aux autres, tu sais, Audrey, de se faire une idée sur ce que les gens peuvent dire. Puis on attribue cette phrase-là à Voltaire, mais c'est une traduction de ce que Voltaire avait écrit à un curé de l'époque, de mémoire. Il avait dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. »
Ouais.
Et je trouve cette phrase-là tellement révélatrice.
Oui, puis t'as vraiment pas tort, puis ça fait réagir. Il y a plusieurs textos qui entrent au 88-971-101. Je trouve ça le fun de vous lire aussi, là. Je comprends les deux côtés de la médaille, puis encore
non,
une fois...
Non, dis-moi pas ça, reste de l'autre bord.
Je sais que t'aimerais... Oui, mais
viens
tu sais, je suis plate. Ça vient avec moi, Yann. Je suis très nuancée comme personne. J'aime la discussion ouverte.
Non, on fera pas 50 nuances de gris, là.
Mais je suis... je dirais... Il y a 75% d'accord avec la pétition qui a circulé, puis le pourquoi, surtout le fond de la question, je le comprends
encore. Puis le pire, c'est que la mère de mes enfants, puis ma blonde actuelle, te dirais, je suis pas mal le gars le plus féministe qu'ils ont rencontré dans leur vie.
Ah, puis ça, je tiens à le mentionner pour les gens qui sont vraiment fâchés, là. Yann n'est pas... Non, mais c'est de faire voir les deux côtés de la médaille, puis ça sert à ça aussi en onde quand on s'ostine, c'est de faire voir un peu les différentes façons de penser. Je veux lire Manon, je trouve ça le fun, ce qu'elle dit, parce qu'on parlait de peur tantôt, tu sais, elle dit tout le monde est motivé par la peur. Des hommes ont peur de perdre leur masculinité à cause des extrémistes féministes, les fameuses enragées, et nous de perdre nos droits, nos privilèges à cause des sexistes et parce que des femmes ailleurs sur la planète ne le font pas parce que ce sont des femmes. Et en passant, elle dit, je crois que vous avez tous les deux raison, puis effectivement que c'est vraiment un... J'ai l'impression que la place que le féminisme a pris dans la société, qui est quand même une grande place parce qu'on veut crier haut et fort et avoir une certaine équité, ça fait peur à certains hommes qui savent plus où se placer puis qui pensent qu'on peut plus rien dire, tu sais. Fait que je pense qu'effectivement, il y a ces deux côtés-là qui sont intéressants.
Mais je me retrouve pas là-dedans, moi. Les gars qui disent « Ah, j'ai peur de me faire enlever ma masculinité, là.
Bon, » Pourtant, on vous trouve très masculin. Hein.
Mais j'en ai tellement. Tu sais, vous pouvez m'en enlever un peu.
Oui. Yann pue le mâle alpha. Ah, ça, tout le monde le sait.
On aurait réussi à le faire rire, notre prochain invité, c'est Jesse Garneau, qui est un ancien combattant des Forces armées canadiennes, qui est en studio avec nous autres. Un auditeur qu'on aime bien, qu'on a rencontré quelques fois. On t'avait vu au show de Papa Roach, je me souviens bien.
Ouais, on a passé une super belle soirée, beaux souvenirs.
T'avais trippé?
Oui, vraiment. Ouais. Au début, j'avais un peu, ça a été un peu dur m'installer, puis être confortable, mais Yann m'a ramené à l'ordre, puis ça a bien été.
Ouais, je t'ai pas ramené à l'ordre pendant tout. C'est que je chantais que tu filais pas, parce que, tu sais, le discours du chanteur de Papa Roach, c'était quand même un discours qui était...
sur la santé mentale.
Qui était sur la santé mentale, puis toi, ben, c'est quelque chose qui te touchait beaucoup, puis à un moment donné, j'ai vu l'importance qu'avait ton chien d'assistance pour toi, tu sais.
Ouais, ouais.
Moi, je connaissais les fameux chiens Mira, là. D'ailleurs, il y a un sketch sur les fameux chiens Mira, là, une humoriste française qui dit... Qui a décidé que les aveugles auraient des chiens Mira? C'est les c'est les voyants. Elle dit, tu sais, quand ton chien fait ses besoins, là, tu fais comment en tant qu'aveugle retrouver son besoin puis le ramasser?
Non, mais c'est un point qui se défend. Écoute, j'avais jamais pensé à ça. C'est pas fou.
C'est très drôle. Mais Jesse, t'as un chien d'assistance. Il s'appelle comment, ton chien?
Il s'appelle Bandy. Il a 4 ans, puis c'est ça, ça fait 3 ans là, qu'on est ensemble.
3 ans.
Ouais.
Puis lui, il est là, puis il gère tes crises d'anxiété?
Oui, lui, dans le fond, aussitôt que je commence à être moins à l'aise, bien, aussitôt que, surtout quand je suis tout seul, puis ça monte fort en dedans, puis que là, c'est plus au niveau des pleurs, au niveau des... C'est là qu'il intervient. Là. Souvent, il me saute dessus, il va vouloir me licher, aller chercher sa laisse, il veut qu'on bouge, il veut me changer d'idée. Là.
Okay.
Les jouets, c'est moi. Ouais,
il essaie de rendre ça positif, de te faire changer complètement d'idée.
Ouais. Puis lui, il sent, dans le fond, il est vraiment entraîné pour...
À 4 semaines, ils se font évaluer. Il y a comme des tests qui passent là, avec des sons, puis les chiens, tout dépendant comment ils réagissent, mais eux qui réagissent le mieux au son, ben, ils sont... Ils peuvent devenir chiens d'assistance. Mais par exemple, tous les chiens ont une possibilité aussi de devenir chien d'assistance. Avec soutien canin, là, il y a des possibilités infinies. Puis, tu sais, juste les contacter, ils vont tout vous expliquer. Mais moi, à base, à 4 semaines, il y avait déjà un don, on pourrait dire, où il répondait très bien à ces tests-là. Là.
Mmh.
C'est pour ça que l'éleveur, j'ai réussi à avoir ce chien-là avec l'éleveur. Puis après, avec soutien canin, on l'a entraîné.
Le jour du souvenir de Jesse Garneau, ça veut dire quoi pour toi?
Ça veut dire ben, de se rappeler de tout ce qui s'est passé, puis de se rappeler la chance pourquoi tout ce qu'on a aujourd'hui, on peut en bénéficier puis en profiter comme il faut. Puis aussi se rappeler tous les chums qui sont passés là, tout le monde qui ont donné du temps aux forces ou de près, de loin, que ce soit les familles. T'sais, ma famille m'a aidé beaucoup, mais le jour du souvenir, c'est pas fait juste pour pleurer non plus. T'sais, c'est fait pour se souvenir. Fait que, t'sais, moi, le jour du souvenir, c'est comme une montagne russe. Là.
Ouais.
C'est autant des beaux souvenirs, de la joie, autant de la peine, de la tristesse, des pertes. Mais t'sais, au bout de cette journée-là, il faut toujours se rappeler qu'on est une grande famille. Puis, t'sais, on va toujours être là, peu importe qui. T'sais, moi, mon téléphone va toujours être là pour n'importe qui a besoin.
T'as-tu l'impression qu'on est conscient de ce que les militaires ont fait pour nous, pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, puis toutes les autres missions qui se sont faites depuis des centaines d'années, en fait?
Oui, mais je pense que... ben c'est un point de vue personnel, maintenant, mais je pense que, tu sais, c'est comme un peu notre génération commence à comprendre la Première, Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que ça a apporté, mais... on dirait que qu'est-ce que le monde a fait pour l'Afghanistan, pour que ce soit toutes les autres missions après en Ukraine, en Pologne, tout ça, mais ça peut-être les gens le voient moins. Ils sont trop dedans. Là. C'est comme si on aurait besoin de l'histoire pour se rappeler, mais en même temps, vous êtes en train de le vivre, là, fait que vous devriez comprendre que c'est des gros sacrifices qu'ils font là, présentement, puis qu'on a fait, puis qu'on va toujours faire là, pour pouvoir avoir la chance de vivre librement dans un beau pays.
C'est malheureux, mais j'ai le sentiment que si tu n'as pas un militaire dans ton entourage, tu ne peux pas comprendre nécessairement exactement ce que vous pouvez vivre au quotidien, les missions que vous avez, justement, mentalement, physiquement, ce que ça peut demander. Jessie, bon, nous, on se connaît depuis quelques années maintenant par boulevard, mais peut-être rappeler aux gens un peu ton histoire. Tu as servi de quelle année à quelle année? Qu'est-ce que tu as fait exactement?
Bien, dans le fond, moi, je suis rentré dans les forces en 2002 sans savoir aucunement c'était quoi. Je savais pas grand-chose. Là. Je connaissais pas personne qui était dans l'armée. Puis j'attendais pour être charpentier-menuisier, puis ils m'ont jamais appelé. Fait que je me suis vraiment ramassé que l'armée, eux autres, ils m'ont rappelé tout de suite. Ça n'a pas été là.
Hein?
Ouais, fait que je me suis engagé, puis j'ai commencé à découvrir que l'armée, dans le fond, ça m'apportait beaucoup, sur le sens où que moi, j'étais un joueur de hockey, un gars d'équipe. J'avais besoin d'être entouré. Puis quand je suis rentré dans l'armée, je suis rentré dans l'infanterie, puis c'est ça que j'ai retrouvé. Là. Fait que je m'entraînais avec mes chums le matin, tu sais. C'était ça, la confrérie, la fratrie. Ouais.
C'était-tu un rêve de petit cul?
Non, même pas.
Même pas?
Non. Moi, quand j'étais petit cul, je voulais devenir acteur, d'après moi, comme Bruce Lee ou
d'après
moi.
Ben, ouais.
Moi, je faisais du karaté, puis c'est ça, quand j'étais tout petit, ouais. J'étais ça. Après ça, ça a changé. J'ai voulu être prof à l'école, mais j'avais pas les notes qui suivaient. Puis là, j'étais rendu au stade du DAP, puis finalement, je suis rentré dans les forces.
J'ai un de mes chums la semaine passée qui m'a dit, moi, je passais sur la rue Saint-Jean. J'ai vu qu'il y avait le centre de recrutement à l'époque qui était juste à côté de les machines à boules, là. L'arcade,
oui.
Juste à côté de l'arcade, puis j'ai décidé d'aller là, puis je me suis fait embaucher, j'ai fait 20 ans de carrière.
Ouais. Mais il y en a beaucoup qui c'est ça, c'est comme une porte de sortie, puis finalement, ils font vraiment leur temps là-dedans.
C'est parce que
puis...
tu peux trouver tout ce que tu peux rechercher. Si tu veux aller faire un métier, tu peux le faire dans les forces, ça soit peu importe lequel. Puis... mais moi, je trouvais ça cool, voir les petits gars courir dans le champ avec les fusils, tu sais, ça me... moi, ça m'allumait voir ça, fait que je suis rentré là-dedans, puis, tu sais, j'en ai mangé. J'aimais ça, là. Moi, j'aimais ça, puis tu sais, j'ai fait quand même une mission en Bosnie. On est allé fermer les camps, deux fois l'Afghanistan, une fois en tant que fantassin, puis, tu sais, en 2006, j'ai été qualifié tireur d'élite, fait que, tu sais, moi, j'étais sniper pour l'armée canadienne. Ça, c'est, tu sais, ça a été au plus haut que j'étais allé, puis qu'est-ce que j'ai aimé plus faire, là.
Ouais. T'es rentré en quelle année dans l'armée canadienne?
2002.
Puis là, c'était-tu encore l'époque où fallait que tu brosses avec ta brosse à dents et toilette au collège militaire?
Là? Ouais, c'était moins pire. Là. Moi, je parlais au collège militaire parce que c'était à l'école de recrues à Saint-Jean. Ouais. Le collège militaire, c'est eux autres, qui ont de l'éducance.
L'éducation!
Non, mais c'est ça. Ben, ouais, c'était pas si pire, tu sais, mais... le processus des recrues est fait pour que tu commences, puis tu seras pas bon, puis à la fin, tu vas être bon. Fait que, tu sais, c'est un processus, faut que tu passes au travers.
Ouais.
Okay? Des fois, il y a des cours qui vont être plus durs, des cours vont être moins durs, mais c'est comme dans n'importe quoi. Des fois, tu prends du monde plus extrême, des fois, tu prends du monde plus, peut-être... plus humain, mais au bout de la ligne, si le soldat que tu vas devenir, c'est toi qui vas le décider. Ouais,
c'est la privation de sommeil, Audrey, c'est parce qu'il est privé de sommeil, il est réveillé n'importe quand, faut que leur lit soit fait, faut que leur douche soit faite, mais ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Mmh. Fait que les gars dorment sur leur lit fait,
Ouais.
C'est capoté.
Ils se lèvent, sont prêts.
Ben oui, ben oui.
Première semaine, je dormais à terre parce que je pensais que je chauffais du temps. Je chauffe pas du temps, j'ai pas dormi de la nuit
ouais,
à terre,
ça.
Tu comprends?
Ouais. Ouais.
Fait que là, à un moment donné, tu développes des trucs, puis tu fais. Le plus important, c'est la base, c'est dormir, manger. Mm. Fait que quand ils te coupent ça, là, c'est là, ça te joue
c'est
dans la tête.
C'est difficile, hein?
Ouais, mais c'est là que c'est le fun. Là.
Faut-tu des aptitudes de base? Parce que moi, le moment où tu me parles de sommeil, tu me perds un peu. Là. Si tu me coupes mon sommeil, là, je peux pas aller là-bas, moi, là. Là.
Ben, je pourrais. Comment je dirais ça? Tant que tu ne l'as pas essayé, tu ne peux pas le savoir.
Okay.
Tu sais, tant que toi, tu n'as pas poussé ta machine, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui t'allume le plus.
Ton grade à ta libération, c'était bon caporal-chef. Tu nous as dit que tu avais été spécialisé comme sniper aussi en 2006. Tu as eu un accident en hélicoptère en 2011, puis tu n'as jamais été capable de retourner faire ce que tu m'as dit que tu aimais le plus au monde. Peux-tu nous parler un peu de cet accident-là?
Oui, dans le fond, en Afghanistan, en 2011, on s'en allait faire une opération. On était deux Chinooks. Là. Des Chinooks, c'est les gros hélicoptères à deux hélices. Puis on s'en allait faire une mission assez loin dans un secteur, parce qu'on n'allait pas... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été. Puis c'était quand même une bonne ride d'hélicoptère, là, 45 minutes, me semble. Là, j'y vois de mémoire. Là, puis tu sais, puis quand on est venu pour atterrir, mais on a fait un... genre de hard landing, atterrissage raté. Là. On a frappé le sol, on arrivait trop vite. On a frappé le sol, puis l'hélicoptère a fait un quart de tour là, vers la droite. Fait que dans le fond, on n'est pas attaché là-dedans. Fait que j'ai une commotion cérébrale. Puis, tu sais, juste pour revenir, ça a été mon déclencheur, ça, pour mon post-traumatique. Parce que, tu sais, un post-traumatique, souvent, c'est une valeur que tu as profondément ancrée dans toi qui a été brisée. Fait que moi, quand j'ai eu mon accident, je me suis cogné à la tête, puis j'étais pris dans le fond de l'hélicoptère, puis le gaz me coulait dessus, puis j'entendais crier « Hey, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu », puis moi, j'étais pas capable de bouger rien, puis j'ai dit « Ah, c'est fini », puis j'ai abandonné là. Fait que, tu sais, le fait d'avoir abandonné une fois dans ma vie, c'est ma plus grosse valeur qui a été coupée à ce moment-là. Mais ça, tu sais, c'est long avant de trouver ça. Ça fait 12 ans que je travaille là-dessus à chaque semaine, puis avec des extras. Là.
C'est-tu le fait de ne pas avoir été capable d'aider les tiens aussi à ce moment-là?
C'est le fait de dire que j'abandonnais parce que moi, j'avais quand je suis parti en Afghanistan en 2011, j'avais un petit gars à la maison. Jérôme, il était à la maison. Lui, il était rendu à 10 mois. Là. Je suis parti, il en avait 3. Je suis revenu, il en avait 11. Puis, tu sais, il ne m'a jamais connu avant ça. Là. Fait que, tu sais, quand je me suis laissé aller, je me suis dit, c'est fini, là, je ne le reverrai plus. Ouais. Puis, je sais pas, ça a dû prendre 3-4 secondes. Je me suis ouvert les yeux, puis c'est là que je me suis rendu compte que Jay m'attendait à la maison. Fait que je me suis relevé, puis j'ai sorti. On a fait qu'est-ce qu'il fallait, puis on est revenu à la maison. Ouais, ça a laissé des séquelles, ça a laissé des traces, là, mais...
C'est ça, quand on parle de sacrifice, là, on parle de ça. Là.
Ouais.
Ce que vous avez laissé là-bas, ce que vous avez ramené ici, l'impact de dans votre vie, l'impact sur votre famille aussi. Tu sais, tes gars, ils ont un père qui a fait l'armée, qui est un héros, mais qui est revenu magané de ça.
Ouais.
Ta mère, tes parents, ton père, ta conjointe.
Ah, puis ça, tu sais, faut tout dire merci. Là, mes parents, là, ils ont toujours été proches. Ma mère, elle me gère au corps de tour pour que je sois capable d'être bien puis pas anxieux, puis tu sais, que je fasse toutes mes choses. Là,
mais on est redevable à vous autres. Ce que vous vivez aujourd'hui, des fois, vous avez l'impression peut-être que vous revenez, puis bon, il faut qu'il y ait des gens qui vous aident, mais on est redevable de ce que vous avez fait pour nous autres. Tu sais, on s'en rend pas compte parce qu'on est en Amérique, là, je veux dire. On parlait tantôt avec Audrey, là, le free speech et tout ça. On est dans des babioles, nous autres. Mais là-bas, c'est un enfer là, pour les gens qui y vivent, pour les femmes qui y vivent, les enfants qui y vivent. Puis, tu sais, vous étiez envoyé dans ces pays-là pour justement qu'un jour, ces méchants-là n'arrivent pas ici.
Exact. Exactement. C'est juste ça. C'était une des choses principales. Là, quand c'est arrivé, quand les taux ont sauté, je me suis dit que ça s'en vient vraiment. Là. À un moment donné, ça va s'en venir. Il faut faire de quoi? Il faut s'impliquer. Puis nous autres, en tout cas, moi, comment je percevais ça, là, être militaire, c'est qu'on s'entraînait, on s'entraînait, on s'entraînait. Mais à un moment donné, on ne fait pas juste s'entraîner. À un moment donné, il faut faire la vraie job. Puis il faut voir si on est capable de la faire aussi. T'sais, t'as qu'à tirer sur des cibles, là, c'est pas pareil que tirer sur du vrai monde. Je vais-tu être capable d'assumer, je vais-tu être capable de le faire, je vais-tu être capable de demander au détachement de sniper, au gars de tirer, puis vivre avec.
T'sais. Avais-tu peur?
Non.
Non?
Non. Non, j'avais pas peur. Moi, je suis spécial des fois. Ouais. Mais je suis croyant, puis tu sais, j'ai J'ai perdu mon parrain quand j'avais 15 ans, puis c'est à lui que je parle tout le temps, puis je pense que c'est lui qui m'a sauvé tout le temps. J'y parlais à chaque fois, à chaque jour, puis j'avais peur de rien, je me suis fait tirer dessus. La première fois que je suis sorti en mission, j'ai reçu un RPG-7, il a passé au-dessus de la tête, ça a sauté, mais tu sais, tu te rappelles pas de tout
ça. C'est un genre de rocket qui est tiré avec un lance-rocket?
Oui, exact.
OK.
Ouais. Puis,
ça doit faire bizarre quand ça te siffle sur le bord de la
rue. Oui, ça fait bizarre. Moi, quand ça s'en vient, ça siffle puis tu te demandes c'est quoi. Là. C'est la première fois que ça s'en vient. Mais tu sais, tu te fais tirer dessus, il se passe rien. Puis là, on arrive à un accident d'hélicoptère, je me cogne la tête puis c'est là que ça finit. T'sais. Mais j'étais arrêté prêt à aller jusqu'au bout. Là. Mm. Mon but n'était pas de revenir pour vrai. Mon but était de faire ma job de A à Z. Ouais. Puis peu importe le résultat, mais je vais le faire.
Quand tu reviens après cet accident-là, c'est-tu un échec pour toi?
Non, mais j'ai toujours l'impression que je vais revenir. Ça me prend juste un petit peu de temps, puis je vais revenir. Mais okay. Là, je suis tout de suite... Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, vu que je me suis cogné à la tête, là, puis j'ai fait une commotion, j'étais suivi tout de suite côté neuropsy et tout ça. Puis là, ils ont commencé déjà à déceler que mon côté mental, il était plus ou moins... Fait que quand je suis revenu avant le quartier, j'avais déjà des papiers prêts pour aller au deuxième étage. Mais moi, j'ai rien vu aller. Quand je parle du deuxième étage, c'est la section psychologie, mm-hmm. toute la santé mentale.
Ce qu'on appelait dans le temps les escaliers de la honte.
Ouais, exact. Fait que là, je suis arrivé là, puis finalement, la psychiatre qui me prend en charge, Dr. Barnier, mais c'est grâce à elle, je suis encore là. Elle m'a suivi du début, elle m'a vu cracher jusqu'à terre, jusqu'à dans le fond du baril pour me ressortir de là. Puis à la fin, elle me dit, si tu veux vraiment... qu'on y a, là, je pourrais t'envoyer à Toronto, à Bellwood. C'est une thérapie fermée de 60 jours.
OK.
Spécialisant. Puis moi, tu sais, mon anglais, là, il est comme celui-là d'Audrey.
Yes, no, toaster.
À peu près. Hein. Puis j'ai dit oui. Ils m'ont envoyé là. Puis j'ai accepté. Ils m'ont embarqué dans un avion. Je suis arrivé là-bas, puis je l'ai fait. Puis ça m'a ramené. Là.
C'est quoi que vous faites là-bas? Là-bas, c'est
au début, c'est tout de suite... Tu sais, moi, je suis tombé dans l'automédication au début, fait que je buvais beaucoup de la consommation. Tu sais, je veux pas...
T'étais à l'ancienne, là.
Oh, ouais, j'étais...
Les grands-pères qui allaient dans le bois, ils travaillaient là 7 jours sur 7, ils se soignaient avec de l'alcool. Puis...
Je faisais à croire que tout allait bien. Ouais. La seule qui m'a pas cru, c'est ma psychiatre. Une chance, hein? C'est la meilleure. Fait que, après ça, ouais, c'est ça quand je suis arrivé là-bas, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils stabilisent les symptômes. Fait que la médication, elle vient avec une bonne médication, tout ça. Puis là, ils te régularisent qu'est-ce qui est sommeil, manger aux heures. Puis là, t'as des ateliers, toutes sortes d'ateliers, que ce soit des ateliers comment gérer ton anxiété, comment gérer ton stress, comment gérer toutes ces choses-là, faire des techniques de méditation. Puis après ça, quand t'arrives après le premier 30 jours, là, on tombe dans plus exposition, puis on parle vraiment du bobo, là. Fait que tous les cauchemars, tout ça, là, on tombe spécialisé juste des anciens militaires. Puis là, on est un petit groupe, puis là, on a des rencontres là-dessus.
Comment ils font l'exposition? C'est-tu vraiment juste d'en parler ou c'est...
On en parle, puis on sort aussi. Ouais, j'étais allé voir une game des Blue Jays. Ouais, ça fait partie de l'exposition. On est capable de sortir en public.
En public.
Ouais. Bon, ils nous la sortent un certain nombre d'heures, on revient, puis ça finalise comme ça.
Est-ce que c'est tous les vétérans qui ont un choc post-traumatique juste de l'expérience de l'armée? Ou...
Non. Mais non. Non, je pense pas, mais tu sais...
Des diagnostiqués, non, là.
Non, c'est ça. Mais je pense que peu importe le diagnostic, que ça soit... tu sais, à un moment donné, là, c'est ça qui est plate, c'est que c'est des termes qui font en sorte qu'après ça, ils t'évaluent, puis là, ils t'ajustent un pourcentage d'invalidité. Fait, je trouve ça un petit peu plate parce que on n'est pas toutes faites pareilles. On n'endurera pas... Puis la douleur fera pas mal pareil à tout le monde pour les mêmes choses, puis on vit pas les mêmes choses. Puis il n'y a pas personne de pareil. Fait que, tu sais, prenons le temps, puis le plus important, c'est... Peu importe le diagnostic que tu as, mais de jamais abandonner, toujours être capable d'en parler, puis jamais trouver que tu en parles puis que tu ne mériterais pas d'en parler. Mm. Ta souffrance, là, tu mérites de la dire, de l'en parler puis d'en parler, peu importe c'est quoi.
Mm. Ah, tu as absolument raison. Vous l'avez vécu chacun à votre façon là-bas. Je ne sais pas si tu as entendu l'émission que j'ai faite avec mes 2000 temps la semaine passée, mais tu sais, j'ai quelqu'un qui est un ancien auditeur qui habitait dans le secteur de Saint-Georges. Je l'ai perdu de vue, mais lui, il a été post-traumatique. Il travaillait, puis il s'en voulait, Audrey, là. Il travaillait à la cafétéria.
Okay.
Puis lui, il entendait le bruit à distance à l'intérieur de sa cafétéria.
Ça le faisait réagir.
Puis quand il est revenu ici, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal dans sa vie, puis il a été consulté, puis il est poqué, là, poqué comme pas possible. Puis son, ce qui, les choses sur lesquelles il s'en voulait le plus, là, c'est des gars comme Jesse qui ont été en théâtre de guerre, qui se sont fait siffler des bombes sur le bord de ses oreilles, siffler des balles sur le bord de ses oreilles. Ils disent, eux autres, ils méritent d'être post-traumatiques parce qu'ils l'ont vécu. Lui, il considérait, même s'il était post-traumatique, qu'il méritait pas d'être post-traumatique. Mmh. Mais il l'a vécu différemment.
Ouais.
T'sais, il voyait pas ce que Jesse et son escouade voyaient, mais il l'a vécu différemment. J'ai d'autres de mes chums avec qui j'ai fait de la plongée, ils sont pas diagnostiqués. Mais ils sont pas capables d'aller au rempart de Québec parce que ça fait partout, tout le temps.
Mais c'est ça que j'avais envie de te demander, Jesse. C'est quoi les traces que ça a laissées concrètement aujourd'hui au quotidien? Tu sais, qu'est-ce qui te fait réagir dans ton environnement? Qu'est-ce qui crée une certaine anxiété?
C'est une bonne question pour vrai. Je suis capable de tout faire. Je suis capable de sortir. Mais c'est parce que j'ai travaillé fort et je suis capable de me ramener aussi. Hein, t'sais, fait que je me connais, je me sens. Fait que t'sais, y a des journées où je sais que ça sent rien d'y aller ou d'essayer de sortir. Mais par exemple, ça me fait du bien de le faire. T'sais, un coup, tu as sorti une fois, puis tu reviens, puis tu te dis, un crime, je suis pas mort, il n'y aurait pas de danger, puis tu le refais une deuxième fois. Mais plus que tu vas le faire, meilleur, mieux que tu vas te sentir. Moi, je viens anxieux quand je suis en retard, mettons, ou quand mes responsabilités sont pas faites. Peu importe quoi, là, mais il ne faut pas que j'accumule trop pour te voir comme une montagne. Mais je te dirais que généralement, ça va bien. C'est sûr que je suis rodé, je suis encadré. Ça fait 12 ans. Fait que, tu sais, là, je n'ai moins, mais, tu sais, quand je suis allé à Papa Roach, puis ça, c'est, tu sais, je suis un émotif, gérer mes émotions, ça peut m'amener à déclencher quand même. Là.
Ouais. Puis l'après aussi, quand on parle avec des frères d'armes, là, tes frères d'armes, hypothéqués ou non, tu sais, c'est quand ils sortent de l'armée, ils ont l'impression comme de perdre une famille.
Ben oui.
Ouais.
Tu sais, l'encadrement qu'il y a dans l'armée, t'as tout le temps quelque chose à faire pour te motiver, t'es tout le temps sollicité à gauche et à droite. Puis là, quand t'es laissé un peu comme seul à toi-même, puis heureusement, aujourd'hui, il y a des groupes qui existent pour que vous puissiez vous rencontrer, c'est extrêmement difficile.
Ben, juste planifier la nourriture, les repas, ça, c'est mon calvaire. Moi, il me disait quand manger, quoi manger. Tu sais, ça reste encore, ça fait 12 ans. Là. Puis, demande-moi pas qu'est-ce qu'on mange puis quoi faire à manger.
C'est source d'anxiété.
Ça me bloque. Ouais, je veux rien savoir. Moi, j'aimerais mieux pas manger pendant 3 jours. Mais ça passe pas. Mais c'est pour ça que je suis bien encadré parce que, tu sais, ma mère est là, elle surveille tout le temps si j'ai fait mes affaires. J'ai ma blonde qui est là aussi, qui surveille si j'ai pour mes médocs. Mais on
ta blonde qui est vétérante aussi, de ce que je comprends.
Oui.
C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés avec nos chiens d'assistance, oui.
Ah ouais? Oui, hein?
On s'est rencontrés avec les chiens d'assistance, oui. Puis ça fait quelques mois, là. Puis en tout cas, tout va bien. Puis on s'aide les deux. Puis c'est une nouvelle chose.
Sens-toi à l'aise d'en parler ou pas. Je veux pas trop rentrer dans ta vie privée non plus, Jesse, mais tu sais, t'as deux gars.
Ouais.
Comment ça se gère, ça, au quotidien? Ça, c'est un gros défi quand t'es revenu parce que là, t'as toi à t'occuper qui est en choc post-traumatique, qui vit énormément suite à cet accident-là. Mais là, t'as un petit poulet de quelques mois à peine à la maison.
Mais quand il était tout petit, ça allait quand même bien, parce qu'on dirait qu'on devenait à même âge mental, les deux, fait que ça allait bien. Mais tu sais, ça a toujours bien été. Mais c'est sûr que leur mère aussi aux enfants était incroyable. Ça a toujours été là, puis elle a toujours fait en sorte que tout aille bien. Puis, sauf qu'à un moment donné, nous autres, on avait tellement vécu ensemble que on voulait qu'on... Puis,
Tes gars, ils te posent-tu des questions, des fois? Ton plus vieux que j'ai rencontré?
Oui, quasiment jamais. Ses chums ils posent, puis lui, il écoute. Il m'en parle pas beaucoup, mais lui, il l'a ressenti beaucoup. Jérôme, il était tout petit, puis il venait me flatter dans le dos, puis il me disait, « Papa, t'as le droit de te reposer. Papa, c'est correct. T'as le droit de te reposer, je comprends. » Je sais pas qu'est-ce qu'il comprenait, là, mais il me le disait. Puis là, il disait à son frère, il prenait son petit frère qui avait 2-3 ans, puis « Viens-t'en, on va aller jouer », puis il l'emmenait dans la salle de jeu, t'sais, pour que
tu te reposes.
Il me repose, parce que sinon, il me voyait pleurer, puis il me voyait anxieux, puis il me voyait... que c'était plus difficile, sauf qu'aussitôt que j'allais bien, par exemple, c'était la première chose que je faisais, c'était jouer avec eux, puis, tu sais, sauf que je préparais pas de repas, non.
Parce que quand j'ai croisé ton gars, tu sais, je vous regardais un peu à distance, il avait de l'air très près de toi, puis vous étiez collés l'un et l'autre. Fait que j'imagine que c'est en vieillissant, des fois, que tu te rends compte des sacrifices que ton père a fait.
Oui, je pense que oui.
Tu dis, OK, mon père était comme ça parce qu'il a fait telle affaire, parce qu'il est arrivé telle affaire. Mm. Puis plus il va vieillir, puis plus ils vont prendre conscience de ce que tu as fait. Puis pourquoi, tu sais, quand il était jeune, tu étais des fois un père différent des autres qui n'ont pas vécu exactement la même chose que toi.
Puis là, ma part, c'est que tu sais, il va commencer à travailler. Là. Est-ce que j'ai montré les valeurs du travail? T'sais, est-ce que j'ai montré l'importance? C'est moi. Mais tu sais, j'ai tout le temps dit, tu sais, pas quand il s'en va à ses rendez-vous, il s'en va travailler pour lui, sur lui. Pour être bien pour toi, hein, puis ton frère. Fait que, tu sais, ça a été ça.
Mais ça aussi, c'est un sacré bel exemple en passant, Jesse, pour tes gars, là.
Puis, qu'est-ce qui m'a aidé aussi, c'est de jouer, d'être entraîneur au hockey. Tu sais, je coach au hockey, puis ça doit faire 9-10 ans. Puis, tu sais, je me disais tout le temps, moi, il faudrait que je fasse du bénévolat. Puis, c'est cette année, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que j'en faisais. Là.
Cool.
Ouais, je me rendais, pour moi, c'était même pas du bénévolat. J'aimais ça aller avec eux autres. Puis en tout cas, c'est les jeunes puis mes enfants, c'est ça qui m'ont gardé en vie, là, c'est sûr.
Tu sais, Jesse, il y a des gens qui nous écrivent qui ont probablement été tes frères d'armes là, au 418-971-1021. Il dit « Jesse Garneau, sachez que vous avez une vraie machine devant vous. Tellement une belle personne que j'ai eu la chance de rencontrer. » C'est cool, ça.
Ouais.
Les gens se souviennent. Est-ce que tu as encore des mauvais réflexes, tu sais, de t'asseoir face de t'asseoir dos à un mur constamment, peu importe où t'es?
Pas tout le temps.
Encore ça? Non.
Bon, je l'ai souvent, mais j'ai sûrement regardé en arrière de la porte en rentrant. Ça, c'est un de mes réflexes premiers.
Regarder en arrière de la porte?
Oui, tu sais, je ne sais pas pourquoi. Moi, soit je la pousse au fond, soit je regarde en arrière.
On a un collaborateur, moi et Audrey, qui vient faire son tour. Il était au crime majeur de la Sûreté du Québec.
Ouais.
Puis à un moment donné, Denis a fait une joke à Pascal. Il est rentré comme où la porte que tu vois là dans le fond pour y faire faire un saut. Puis Pascal a eu un cri de la mort. Puis l'ex-policier a mis sa main sur son gun qui n'existait pas. Là.
Hein? Mais c'est fou, là, tes réflexes physiques qui sont encore
pendant
super 10 présents.
Secondes, il avait la main sur son fusil imaginaire.
Quand on s'est jasé, tu m'as dit à un moment donné, tu m'as écrit que ton accident en hélicoptère dont on a parlé un peu plus tôt qui fait que on t'a ramené, ça fait en sorte que t'as jamais été capable de retourner faire ce que t'aimais le plus au monde. C'est quelque chose qui te travaille encore? Est-ce que ça te manque encore, l'armée?
Oui, ça va toujours me manquer. Ça
tu retournerais?
Toujours... Oui, je retournerais n'importe quand. Oui, n'importe quand.
C'est quelque chose que...
Je voudrais pas sacrifier... Je voudrais pas que, tu sais, mes enfants aient la douleur d'eux, mais si c'était juste moi pour moi, là,
Puis tes gars veulent aller dans l'armée demain matin, c'est-tu quelque chose avec quoi tu étais à l'aise?
Oui.
Oui?
Oui, je suis à l'aise. J'aimerais ça mieux que non, mais... Sauf que moi, j'ai tellement aimé ça, tu sais, ça a fait de moi, tu sais, j'ai eu des belles valeurs à la jeunesse, j'ai eu des parents extraordinaires et tout, mais tu sais, quand je suis arrivé, j'ai retrouvé tout ce que je voulais, que je ne retrouvais pas ailleurs, mais que c'était inaccessible pour moi, juste avoir des notes à l'école et tout ça. Mm-hmm. Tu sais, j'aurais aimé ça, être prof d'éduc, mais est-ce que j'aurais été celui que je suis aujourd'hui, si j'avais été prof d'éduc au lieu d'être tireur d'élite? Non. Tu sais, c'est une fierté pour moi d'avoir été tireur d'élite pour l'armée canadienne. Puis, tu sais, dans mon cœur, je vais tout le temps l'être, puis je vais tout le temps être un soldat jusqu'à la fin de mes jours. Puis si c'est pas de remettre l'uniforme puis aller me battre, mais s'il y a des chums qui ont besoin d'appeler ou bien ils ont besoin de n'importe quoi, mais qui se gênent pas, je suis facile à trouver n'importe où. Là. C'est rien que ça.
Mais je vais te trouver sur les réseaux sociaux, Jesse Garneau. Yeah. Là, ça fait 10 ans que tu es bénévole, plus de 10 ans que tu es bénévole. T'as-tu l'intention à un moment donné de retourner sur le marché du travail? Est-ce quelque chose qui t'intéresse?
Non, je regarde même pas ça. Tu sais, c'est pas que je regarde pas ça. Même que mes capacités soient mieux, je vais faire plus de bénévoles.
OK.
Puis je vais m'en aller vers là. Mais s'ils me disaient d'aller travailler, mais est-ce qu'on est comme piégé un peu? Hein? Tu sais, moi, j'ai un secondaire 5, il faudrait que je fasse le salaire que je faisais. Tu sais, ça se retrouve pas de même. Puis là, c'est tout.
OK, tu descendrais par rapport à ce que tu gagnes.
Oui, c'est ça. Fait qu'eux autres,
quand ils te libèrent, faisant du bénévolat, t'es pas hypothéqué là, sur ton salaire.
Oui, exact.
Parfait.
Moi, j'aime mieux faire du bénévolat, puis tu sais, il s'assure de mon bien-être.
Ouais.
Monétairement, ça, tout est correct.
Fait. C'est ça.
Puis
les jours où ça te tente peut-être un peu moins parce que la vie est un peu plus difficile,
exact.
Ben t'as juste à pas faire ton bénévolat, puis il n'y a pas personne qui va te sacrer dehors.
Mais c'est ça, c'est à mon sens, t'as donné, là.
Ouais.
mais c'est jamais assez, tu comprends?
Je comprends totalement.
Comme ça sera jamais assez, puis... T'sais, je regarde mes parents, qu'est-ce qu'ils font pour moi, mais j'arrêterai jamais non plus d'en donner puis d'aider les gens. Mais de là, aller me trouver un travail puis m'asseoir pour aller travailler, j'aimerais mieux donner 100 heures par semaine de bénévolat à du monde qui en a besoin.
Ouais. L'aide médicale qui est donnée aux militaires puis, puis vétérans. Bon, dans les dernières années, moi, tes frères d'armes m'ont toujours dit, tu sais, Yann, ça s'est beaucoup amélioré comparativement avant, dans les années 80-90. Ouais. Tu sais, les gars appelaient le fameux escalier l'escalier de la honte, là. Fait qu'avant d'aller te demander de l'aide, il fallait que tu saches que tu allais être jugé par tes frères d'armes parce qu'ils appelaient ça, c'était l'escalier de la honte. Aujourd'hui, vous ne l'appelez plus de même.
Moi, j'y vais plus. Moi, c'est la clinique TSO sur le boulevard Lormière là, qui prend les vétérans. Mais je pense que oui, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Ça change toujours pour le mieux. Non, mais tant que ça change, tu comprends? Tu sais, des fois, ça ouvre la porte à plusieurs autres qui ont plus ou moins besoin, mais qui veulent peut-être, tu sais, profiter de ça. Mais je trouve que moi, pour ceux qui en ont besoin, il y a beaucoup moins de... beaucoup plus accessible.
C'est moins tabou.
C'est moins tabou. Puis ouais. Mais comme je l'ai dit, moi, je le vis moins à Valcartier. Moi, si c'est à la TSO. Fait qu'à la TSO, ça va quand même bien. Ouais. Il y a moins de... moins de tabou, je pense.
Ouais. Pourquoi les militaires peuvent maintenant aller au privé ou encore au public?
Ben, ils manquent de ressources, probablement. Là. Ça doit déborder, puis ils doivent manquer de...
Parce qu'avant, je pense qu'ils voulaient garder ça peut-être plus à l'interne.
Plus à l'interne. Tout ça passait en haut, deuxième étage. Master, il y a beaucoup qui vont à des places privées. Ouais.
Parce que dans le fond, les professionnels que tu consultes, eux autres, c'est un secret professionnel. Fait que ça peut pas sortir.
Non. C'est ça.
Je veux te dire, Jessie, qu'on a plusieurs textos qui entrent, qui sont vraiment beaux. Je pensais pas qu'on avait autant de militaires là, qui pouvaient être à l'écoute. Allô, Jess, biscuit t'embrasse, beau témoignage. Mon pote garde la tête haute, un ancien collègue, collègue sniper.
Yes.
Il y a Andrea qui t'écrit, Jessie Garneau, merci de te verbaliser des sentiments qui est impossible de mettre en mots. J'avais besoin de t'entendre ce matin, mon ami. On en a aussi qui sont inspirés. Il y a quelqu'un qui nous a dit, merci d'être là ce matin, Jessie. Ça fait 22 ans, lui a fait 22 ans. Puis lui a malheureusement fait une tentative de suicide. T'sais, il dit qu'il aurait aimé ça pouvoir être fort comme toi. Puis en même temps...
T'es fort, t'es encore là. Même.
Exactement. Et merci, tu m'enlèves les mots de la bouche. Là. Je sais que ça crée quelque chose ce matin, le fait que tu sois là. Puis je tiens à te remercier.
Mais c'est sûr que Biscuit, ça l'humaine.
Biscuit, c'était ça de tes frères d'armes?
Oui, mais on était au sniper ensemble.
Un sniper qui s'appelle Biscuit, on a ça au Canada.
C'est bon, ben drôle.
Mais là, je pourrais pas vous dire son nom non plus parce que c'est un secret d'État, là. Sinon, je vais me faire tuer, c'est sûr. Il doit me checker à quelque part.
T'avais-tu un surnom, toi, Jessie?
Non, moi, c'est Garneau, souvent, c'est Garneau. Moi, c'est Jess, ça sonnait bon.
Ouais. Mais vous étiez tout le temps deux, ça prenait ton spotter.
Jesse Paye, c'est ça qu'ils disaient les gars.
Jesse Paye. Mais vous étiez tout le temps deux, ça prenait ton spotter plus toi.
Moi, on est tout le temps en équipe de quatre. Deux tireurs, deux spotters, mais on se déplaçait plus juste en équipe de deux. Là. C'était au minimum quatre, même peut-être huit, là, je me trompe pas.
Hey, ça m'a pris du temps avant de comprendre pourquoi il y avait le fameux spotter. Moi, tu sais, je voyais ça à télé, je trouvais que ça servait comme un peu à rien.
Pour le protéger?
C'est parce qu'avec le recul du fusil, les gars, ils voyaient pas si la cible a été touchée. Ça prend quelqu'un qui confirme.
Ouais. Mais voyons donc!
Ouais, quand tu tires, juste le mouvement naturel de l'arme fait en sorte que tu perds souvent la trace, le sillon de la balle. Le sillon de la balle, c'est l'effet de la balle dans l'air qui fait comme dans Matrice un peu. Là.
Que tu tires
tu vois dans Matrice, le film. Là. Fait que là, lui, le spotter est à côté avec la jumelle, mais lui, il suit le sillon du début jusqu'à la fin, ou presque. Des fois, tu le prends un petit peu plus loin, mais lui, il est capable de dire où ce que j'ai tiré. Fait que lui, le spotter, c'est lui qui me dit où retirer la deuxième balle, je vais atteindre la cible. Fait que moi, il faut que j'aie 100% confiance pour qu'on parle 100% le même langage si je veux réussir.
Puis là, je vais avoir l'air nounoune, mais je suis sûr que je suis pas seul à me demander parce que tout ce qu'on a, nous autres, quand on parle de sniper, c'est l'image des films. Là.
Ouais.
T'es-tu littéralement sur les tops de building, là, puis vous avez des cibles précises, puis toi, ta job, c'était vraiment d'atteindre ces cibles-là?
C'est dans les films, moi.
Souvent. j'ai juste cette vision-là. Explique-moi, éduque-moi.
Mais tu sais, je dis pas
t'es-tu capable d'éteindre des cigarettes à 1 km avec ton arme?
Non, mais pour vrai, comment ça fonctionnait, c'est qu'on prenait position, puis on protégeait l'infanterie qui s'en venait, ou on prenait de l'information des journées d'avance. Fait que, tu sais, sniper, c'est être le fusil puis tirer aussi, mais c'est d'être là en premier, c'est d'être là que quand les gars arrivent, ils savent exactement qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'il y en a. Puis qu'est-ce qu'il doit faire, puis nous autres, il faut les protéger à partir de là.
T'es fortement exposé.
Fait que, si j'aurais une cible, tu sais, s'ils me diraient, hey, cette cible-là, il faut que t'aies abattu. C'est pas un soldat de la. Tu sais, ça va être un GTF ou une force spéciale. Là, on est comme en dessous de ça, mais okay, c'est correct à m'emmener. Mais nous autres, c'était surtout ça. Là. On prenait plein la position, on prenait de l'information, puis on pouvait on tirait sur, sur au stockage un méchant. Là.
Oh, ouais.
Puis là, pour les connaître, il fallait qu'ils soient armés ou avec une intention. En tout cas, ça, c'est les règles d'engagement. Là, mais ouais. Mais
on s'entraînait à tirer.
Oh non, non, mais on s'entraînait à tirer là, avec la .50, on tirait jusqu'à 2,4 km, là. C'est loin. Là.
Par
le temps de tirer une balle, d'en reloader une, d'en retirer la deuxième, la première pas arrivée. Mais ça, c'est des long shots. Oh, ouais. Mais ça, c'était mon. Moi, j'aime. Ça, c'est ça qui est le fun.
T'en tirais pris, une?
Je tirais une balle, j'avais le temps de recharger, puis retirer l'autre, c'est 3 à 4 secondes, temps de vol. À rendu à 2 km. Mais là, c'est sûr que si c'était proche, ça arrive pas mal plus proche. Là.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Mais c'est des affaires de même j'amenais qu'on faisait quand on s'entraînait. Là.
Puis avec le vent de travers, tu sais, le vent,
ouais,
pendant
ça
doit être compliqué à calculer des fois.
Oui, mais sûrement que ça évolue encore. Là. Moi, ça fait déjà. Je suis sorti en 2014, fait que ça fait déjà 10 ans. Mais on avait un système avec le GPS qu'on branchait dans une petite machine. Moi, je me rappelle pas quand. Ça prend le vent, puis la pression de l'air, puis tout ça. Puis avec la balle qu'on rentrait là-dedans, ça nous disait mettre quelle élévation, puis quelle... Tu sais, tout est, ça en vient informatisé même de ce niveau-là.
C'est
puis même en Afghanistan, là, dans la dernière opération, avec l'ingénieur à côté de moi, c'était un ingénieur, hein, puis il y avait des drones, là. Il faisait lever le drone à côté de moi, puis il allait le voir au bord du mur, il disait « OK, ça, il y a, c'est ça qui se passe », il redescendait le drone. Même plus besoin de se mettre la face, là.
C'est
pas pire, ouais.
Et mon Dieu, ben ça
mais c'est nouveau, là. Fait que la star, ça doit. Ben oui, ben oui. C'est ça, c'était.
Puis tu tirais avec quel œil, hein?
Moi, je tire avec la droite, mais je suis gaucher, ça dépend. Puis si tu te laisses, je tire avec l'œil gauche, puis au vrai gun, je tire de la droite, ouais. Puis chez Spot, je tire de la gauche. Je sais pas de la gauche.
C'est particulier, là.
Ouais, ouais.
C'est comme tellement loin de nous.
Hey, Jesse Garneau, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous autres en studio. On le répète, c'est le jour du souvenir aujourd'hui, puis on vous remerciera jamais assez pour tous les sacrifices que vous avez faits. Puis je parle aux familles aussi, ainsi qu'aux militaires qui sont actifs. Un gros merci pour votre service.
Merci à vous autres.
Puis si vous voulez rajouter Jesse Garneau, c'est sur les réseaux sociaux.
Ouais, yes. N'hésitez pas si vous voulez, à écrire.
S'il y a de quoi. Puis merci à tout le monde. Merci de votre aide. Merci. Puis prenez soin de vous autres. Puis n'oubliez pas que vous êtes important pour... même si c'est juste important pour moi dans la vie, n'oubliez pas que vous êtes important sur notre planète. Fait que restez en vie. Prenez soin de vous autres.
Merci, Jesse. Reg Against le matin.